Bonjour à toutes et à tous, c'est Temps d'Images, une émission de Radio Grenouille consacrée à l'actualité cinématographique visible et moins visible.
Émission présentée par Jean-Marc Lamour et Nassim. Aujourd'hui, émission du mois de mars. On était absent durant quelques mois, c'est la première émission de l'année. Et pour cette première, on reçoit Sabine Putorti, directrice de l'Institut de l'Image à Aix-en-Provence. L'Institut de l'Image se situe à la bibliothèque Méjeanne pour parler de la programmation de ce lieu atypique.
Sabine Putorti, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, on connaît peut-être ce lieu qui est l'Institut de l'Image et qui pourtant rayonne par sa programmation. Comme disait Nassim, c'est un lieu qu'on trouve à la Méjeanne à Aix-en-Provence. Et c'est un lieu un petit peu atypique que des fois, on a du mal dans les programmations à se dire, tiens, qu'est-ce que c'est une cinémathèque, un cinéma d'art essai très pointu qui n'a pas besoin d'argent ou pas besoin d'entrée. Parce qu'il y a des choix très, très précis. Alors, qu'est-ce que c'est
tout d'abord, merci beaucoup de m'inviter pour cette... première émission, ce retour, je suis vraiment flattée et puis contente et heureuse de pouvoir parler de ce lieu que j'aime beaucoup, j'ai la chance de diriger depuis 2 ans à la suite d'Emmanuel Ferrari, qui est donc la personne qui a fondé cette association il y a 15 ans, avec l'idée d'avoir un lieu de cinéma un petit peu libre de l'actualité et de certaines contraintes économiques. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'argent et qu'on n'a pas besoin et envie d'avoir du public, mais c'est vrai qu'on est une association complètement subventionnée pour combler les difficultés qu'ont les salles à réessai ou les autres salles à devoir justement répondre à l'exigence d'avoir du public. C'est-à-dire que on ne veut pas abandonner le cinéma à la simple actualité, on ne veut pas laisser mourir des œuvres qui ont besoin d'être vues et revues, et on a envie de les montrer un petit peu dans leur ensemble au maximum. C'est-à-dire que moi, je défends beaucoup l'idée qu'un réalisateur peut faire 15 films, 20, 30, et que c'est un petit important à un moment donné de pouvoir les redécouvrir dans le sens qu'on veut d'ailleurs, parce que ça crée des liens, on voit des choses... Et puis, ces films existent et c'est quand même très dommage de ne laisser que la télévision et le marché vidéo et DVD la possibilité de les montrer.
Dans cette idée, on vient de se terminer une rétrospective dédiée à Antonioni et on a en tapis sonore le son de Pink Floyd extrait de Zabriskie Point. Alors c'est une rétro qui a fonctionné à l'Institut de l'Image.
Oui, alors elle a très bien fonctionné, donc ça j'en suis très heureuse. Elle s'est déroulée sur 3 semaines. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de spectateurs, restons quand même, on est toujours dans des proportions quand même assez confidentielles, mais il y a eu surtout un mélange de public et ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'il y a des jeunes qui connaissent le nom mais qui connaissaient peu l'œuvre et qui sont venus le découvrir. Et qu'on constatait que c'était un cinéaste très expérimental. Donc là, on a la musique de Pink Floyd, qui est le plan final de Zabriskie Point, où il y a une explosion hallucinante. Je crois que c'est le premier à l'époque qui a réussi à accélérer à ce point la pellicule pour donner donc un effet de ralenti extrême. Et bon, donc on flotte. Et il a mis cet effet technique au service d'une image extrêmement poétique. Je crois que c'est sa particularité. Et moi, je pense que dans beaucoup de cinéastes dont on montre les films à l'Institut, on voit bien que l'art, les idées qui sont à la naissance des films ne sont pas antinomiques avec un sens de l'expérimentation.
Donc ce travail de mémoire et thématique sur des auteurs du cinéma, généralement des grands auteurs, c'est un travail que vous menez, mais le public de l'Institut de l'Image, il se compose de qui? Qui c'est qui vient? Est-ce que ce sont des quinquagénaires nostalgiques? Est-ce que ce sont des jeunes? Est-ce que ce sont des cinéphiles? Est-ce que ce sont des curieux?
Moi, je crois que ce sont des cinéphiles, ça c'est certain. Je crois que c'est des gens qui aiment le cinéma et qui sont curieux d'en découvrir un peu toutes ses formes. Malheureusement, je dois dire que les jeunes ne sont pas assez présents. Je pense qu'il y a quand même un grand changement dans la manière de découvrir le cinéma aujourd'hui et qu'on voit bien que les quinquagénaires, pourquoi ? Bon, peut-être qu'ils ont un peu plus de temps, mais je pense qu'ils ont vraiment connu l'époque où le cinéma...
On découvrait le film au cinéma.
Et en salle, voilà. En salle. Et ça, je pense qu'il faut en parler. Le but de l'Institut, c'est de montrer des films, c'est de les montrer dans une salle, alors qu'il n'y ait pas... qui n'est pas extraordinaire, je ne veux pas non plus faire de la contre-publicité, mais dans un lieu collectif. Quoi. Ça, c'est fondamental de sortir de chez soi, aller à la rencontre d'autres gens qu'on ne connaît pas et pouvoir échanger, parce qu'on suscite aussi souvent des débats après les films, quand ils s'y prêtent, pour qu'il y ait un échange d'une parole intime dans un espace collectif. Et ça, je pense que c'est très important. Et quand ça opère... c'est merveilleux.
Il y a une activité vers les jeunes qui est aussi entreprise par l'Institut de l'Image en termes d'ateliers. Et il y a un pôle d'éducation à l'image.
Voilà. Alors, c'est-à-dire que l'Institut de l'Image ne fait pas que programmer. Donc, elle programme en effet une dizaine de rétrospectives dans l'année. Donc, soit rendant hommage à des grands auteurs, soit à travers des thématiques. Ou en association aussi avec des associations qui veulent susciter des débats. Et puis, parallèlement à ça, on a toute une activité pédagogique qui se décline des plus jeunes vers les étudiants à l'université, puisqu'on a un partenariat avec l'Université de Provence qui vient donner des cours tous les mardis après-midi dans notre salle. Et ce cours est ouvert au public. Donc là, c'est une proposition théorique, on va dire, d'approche du cinéma. Mais nous offrons aussi des petites séances qu'on a intitulées « L'Institut explore l'image » avant certaines rétrospectives où on propose au public, avant René, par exemple, de s'intéresser au montage. Et on offre, à travers une série d'extraits, la possibilité de donner un vocabulaire de base du langage cinématographique et un échange encore une fois avec le public pour répondre à leurs nombreuses questions. Et puis on a beaucoup de partenariats avec les lycées et les collèges. On participe aux dispositifs classiques de lycéens et on est partenaire culturel pour des ateliers. On est également partenaire de la MJC Prévert et on propose un cinéma des jeunes une fois par mois. Et puis des ateliers pour les enfants aux vacances de la Toussaint. On en reparlera peut-être tout à l'heure dans le cadre des instants d'été, qui est une opération qui s'est montée à Aix depuis 2 ans. Et pour la 3e édition, nous voulons proposer des ateliers en partenariat avec des associations aixoises qui travaillent toute l'année sur le terrain et vraiment s'ouvrir, enfin montrer qu'on est une salle... D'abord ouverte à beaucoup de propositions, une salle d'accueil pour un lieu d'échange de paroles à travers le cinéma. Starts calling me.
Rambling Man, un morceau de Hank Williams, morceau qui doit avoir à peu près 55 ans, repris par Isobel Campbell et Mark Lanegan. Isobel Campbell, échappée des sublimes Belle and Sebastian, et Mark Lanegan, guitariste et chanteur des Screaming Trees et autres groupes un peu énervés américains. Le résultat est sublime, l'album Ballad of the Broken Seas est distribué par V2.
Tant d'images, avant de redonner la parole à Sabine Putorti, directrice de l'Institut de l'Image à Aix, on va passer un petit moment de chronique, de film, et puis en premier lieu le coup de poing, le choc qui est ce film intitulé « Massacre ». Que certains d'entre vous ont peut-être découvert au Festival international du documentaire en juin dernier, à La Criée, et puis que le Variété programme cette semaine, et puis j'espère encore quelques temps, pour que vous puissiez aller le voir. Alors Massacre, c'est pour moi plus qu'un documentaire, c'est un document, parce que c'est une parole qui est donnée aux miliciens libanais qui donc ont été les bourreaux ou participé disons au carnage de Sabra et Shatila. Et c'est un film, un document, parce que on n'est pas vraiment dans un style documentaire ou une relation filmeur-filmé. On est plus dans cette espèce d'intimité cauchemardesque. Qu'est-ce que c'est que survivre aussi en tant que bourreau à ça? Et donc les protagonistes sont filmés à contre-jour ou de dos ou sur des détails de main, on voit jamais leur visage, et donc quelque part ça pourrait être tout le monde, et on est dans la parole seulement, dans la pensée seulement, et on est dans une parole qui est terriblement douloureuse, et dans l'acte et dans l'atrocité qui a été commise. Massacre, ça c'est un film d'une heure trente environ, mais en fait on a l'impression que le temps se dilate, on a l'impression de passer une nuit ou quelque chose comme ça avec eux, enfin une nuit d'horreur, et qui est peut-être celle de Sabra et Shatila.
Ce dispositif, je pense, est lié à ce dispositif qui est très simple, c'est une pièce vide avec un éclairage en contre-jour, comme tu l'as dit, pour préserver l'anonymat des miliciens, et quelques gros plans sur des parties du corps. Ce dispositif, il nous rappelle quelque part une salle où on va faire un aveu. Ça nous aura, l'aveu, ça va être la caméra. Ces quatre murs aussi, avec cette pièce vide, ça nous rappelle aussi une prison, une sorte de prison du souvenir, quelque chose de très, très, très dur, un film un peu claustrophobique. Il faut vraiment être dedans, mais une fois qu'on y est, c'est vraiment très dur d'en sortir, c'est vraiment très, très prenant. Et c'est assez rare d'arriver avec un dispositif aussi simple à créer une émotion aussi forte. C'est aussi lié forcément à ce sujet, les massacres de Sabra et Shatila. Et comme souvent, lorsque l'on voit des bourreaux à l'écran, il est rarement question de rédemption. Il y a un seul des miliciens sur la dizaine qui sont interviewés qui fait un tout petit peu acte de contrition. Mais les autres en parlent d'une manière très... d'une manière tout à fait normale, à la limite du technique, c'est-à-dire regardez comment je l'ai violé, comment je l'ai égorgé. C'est vraiment très difficile. Et là où le film est très très fort aussi, c'est qu'il réussit à parler d'un fait historique sans nous en montrer les images. Ce sont simplement les acteurs qui en parlent. Donc au détour de leurs paroles, on voit quelques photos de leurs photos, les photos y compris les miliciens, qui interviennent, mais l'horreur, elle n'est pas tellement dans ces photos, elle est dans la parole. C'est là où le film est vraiment très fort. Et je voulais revenir, juste avant de te laisser la parole, sur une petite anecdote concernant le film. Donc ce sont des miliciens libanais, des milices chrétiennes, qui vont perpétrer ces massacres dans les camps de réfugiés de Sabra et Shatila, des réfugiés palestiniens. Et c'est orchestré, tout ça est orchestré par Israël. Et ces miliciens sont entraînés et soutenus donc par Israël. Ils sont allés s'entraîner en Israël. Et dans un camp d'entraînement, un soir, on leur montre un film. Et ce film, c'est un film sur l'extermination des camps nazis. Le milicien se demande pourquoi on leur montre ça et pas un film de Tarzan ou un film porno. Et là où c'est fou, c'est que quelque part, la boucle se boucle. L'horreur en continue. Les victimes d'hier, les juifs, sont les organisateurs des massacres d'aujourd'hui. C'est absolument horrible. C'est vraiment très très fort. Et cette fausse aussi naïveté des bourreaux, des miliciens, elle joue aussi un rôle vraiment très 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 dérangeant.
Oui. Voilà. Alors, lors de la venue des réalisateurs la semaine dernière aux Variétés, il y a eu Salle Comble. Bon, mais c'est vrai que c'est un film qu'il faut s'armer d'un peu de courage, mais qui est important, quoi, pour que ça reste pas que des mots ou des anecdotes glauques de notre histoire.
Et pas que des images aussi, une parole sur ces images.
En complément autour de ce film, je crois, Sabine, que tu voulais évoquer la programmation consacrée à Amos Gitai. Vous avez fait à l'Institut de l'Image.
Le sujet, en fait, je vous ai pensé à ça. C'est-à-dire que je pense que tous les films qui peuvent témoigner de cette horreur ou un témoignage historique sont évidemment intéressants. En vous entendant parler, je n'ai pas vu Massacre. Hein. Je pensais au film de Ritipan, en fait,
S21. S21, Machine de guerre.
Pour moi, était un film prodigieux, mais vraiment une réflexion sur ce qu'est un bourreau. Enfin, j'y pense toujours. Voilà. Alors, évidemment, Gitai, c'est dans un autre ordre. C'était une visite importante. De ce réalisateur qui a été très engagé, il est peut-être un peu moins maintenant, en tant qu'Israélien, à dénoncer la guerre entre les Israéliens et les Palestiniens. Et moi, j'ai redécouvert dans la programmation qu'on a donnée des documentaires qu'il a réalisés au tout début des années 80, notamment House et Journal de campagne, et qui sont des éléments de compréhension qui viennent alimenter notre besoin de réflexion incessant, moi, je pense, sur ces événements. Voilà, le cinéma a un grand rôle à jouer.
Côté documentaire, il y avait aussi, il y a quelques temps, et certainement que ça va être reprogrammé à nouveau, un film assez surprenant de Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil, « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés », avec un titre un tout petit peu étrange, qui nous parlait de, on va dire, de la maladie du travail, on peut dire ça ? Tu l'as vu ?
Oui, moi je l'ai vu, oui, c'est un film sur l'aliénation au travail et je trouve que le sujet est vraiment très intéressant. Je crois qu'au début, elle avait envie d'aller filmer sur les lieux de travail et puis c'était compliqué. Et donc, elle a eu l'idée d'aller là où les gens se font soigner finalement dans un dispositif très, très simple, hein, un petit peu à la Depardon, on peut dire. Ouais. Mais en même temps, en filmant le dialogue, ce que Depardon ne fait pas, parce que là, elle filme quand même un face-à-face. Et effectivement, il y a des témoignages quand même très, très troublants et très, très intéressants.
Et avec une troisième partie aussi qui est très très intéressante, où on voit les médecins du travail, spécialistes des mots du travail, entre eux, qui font une certaine analyse de leurs expériences, et c'est vraiment très très enrichissant, et on constate la fin d'une certaine idée collective de défense.
Voilà. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que l'analyse psychologique rejoint une analyse sociale et politique. Et je crois que le psychiatre qui est là de jour est quelqu'un de très engagé, très militant, commencer à affirmer qu'il y a des mots MAUX personnels et individuels qui finissent par constituer un mal collectif et social.
Documentaire assez qui parle de sujets assez graves. On va rejoindre une certaine légèreté avec Walk the Line, un film de James Mangold qui retrace la vie de Johnny Cash. Mais avant de parler de ce film, Johnny Cash, on va l'écouter.
It all began when they took me from my home and put me on death row. A crime for which I'm totally innocent, you know. I began to warm and chill to objects and their feels. A ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my soup. Those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels. A hook bone rising from my food, and all things either good or ungood. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning, and in a way I'm yearning to be done with all this weighing of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway, I told the truth, and I'm not afraid to die. I hear stories from the chamber. Christ was born into a manger, and like some ragged stranger, he died upon the cross. Might I say it seems so fitting in its way, he was a carpenter by trade, or at least that's what I'm told. My kill hand's tattooed evil across its brother's fist. That filthy five they did nothing to challenge or resist. In heaven his throne is made of gold, the ark of his testament is stowed, a throne from which I'm told all history does unfold. It's made of wood and wire, and my body is on fire. And God is never far away. Into the mercy seat I climb. My head is shaved, my head is wired. And like a moth that tries to enter the bright eye, I go shuffling out of life just to hide in death a while. And anyway, I never lie. And the mercy seat is waiting. And I think my head is burning. And in a way, I'm yearning to be done with all this weighing of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway, I told the truth. And I'm not afraid to die. And the mercy seat is burning. And I think my head is glowing. And in a way, I'm hoping to be done with all this twisting of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway, there was no proof. And I'm not afraid to die. And the mercy seat is glowing. And I think my head is smoking. And in a way, I'm hoping to be done with all these looks of disbelief. A life for a life and a truth for a truth. And I've got nothing left to lose. And I'm not afraid to die. And the mercy seat is smoking. And I think my head is melting. And in a way, that's helping to be done with all this twisting of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway, I told the truth, but I'm afraid I told a lie.
Bien dans Temps d'Image, petite respiration musicale avec une reprise de Nick Cave par Johnny Cash, un de ses derniers albums, Solitary Man, sorti je crois en 2000 tout court. Très très beau morceau et petit morceau qui va nous permettre d'introduire une toute petite chronique, parce qu'elle mérite qu'une petite chronique, du film Walk the Line de James Mangold, donc qui retrace la vie de Johnny Cash. Ça nous montre la trajectoire d'un musicien, donc Johnny Cash, qui part du sud profond et de son attachement à la terre jusqu'à la vie de rockstar. Il croise Buddy Holly, Elvis Presley l'initie aux amphétamines, c'est absolument fabuleux. Dans cette légèreté, on va dire, qui nous montre des icônes du rock'n'roll, le film est assez plaisant. Lorsqu'il essaie de nous parler d'une histoire d'amour un peu cuculapraline, il est vraiment assez déplaisant, on va dire. L'acteur principal est plutôt mauvais, on peut le dire, il est vraiment mauvais. Le film s'embourbe, il nous fait penser à un film assez récent, c'était le Ray, qui retraçait, on va dire, la trajectoire de Ray Charles de Taylor Hackford, qui n'était pas un chef-d'œuvre, mais qui réussissait à nous parler de la musique, on va dire, de l'intérieur. On avait l'impression de voir des images d'archives oubliées, on avait l'impression d'être au cœur de la création même. En regardant Walk the Line, on a l'impression de voir un film, mais totalement de l'extérieur. À aucun moment, il n'est question de musique. C'est totalement aberrant. C'est purement contemplatif. On voit l'itinéraire, c'est rectiligne.
Historique.
Voilà. Il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est un simple, on va dire, divertissement. C'est vraiment dommage, parce que s'attacher à un personnage qui a été un des acteurs principal de la musique folk, une musique, une sorte de blues blanc qui s'attache à parler de l'autre Amérique, de l'Amérique pauvre, du prisonnier, du vraiment de ce que pourrait faire Springsteen à son meilleur. C'est dommage que James Mangold en ait tiré un film vraiment lisse, d'une réalité un peu crue. Il en a fait un film lisse et c'est vraiment dommage.
Le cinéaste à vos caméras, il y a encore un film à faire donc sur Johnny Cash.
Et il reste encore un film et c'est sur beaucoup d'autres.
C'est pas définitif du tout. Il y a un autre film qui était très attendu ce mois-ci, c'est le dernier film de Terrence Malick, Un Nouveau Monde, que j'ai traîné un peu à aller voir et finalement Nassim s'y est mis.
Donc forcément, Terrence Malick, on en reparlera tout à l'heure parce que d'autres films de lui sont programmés. Un film de Terrence Malick, il est forcément attendu. D'autant plus lorsqu'il traite de la naissance d'une nation, la découverte de l'Amérique par des colons anglais, le début de la colonisation. C'est assez, on va dire, décevant. On pourrait résumer Le Nouveau Monde à une histoire d'amour un tout petit peu contrariée entre le beau capitaine anglais et la jolie Pocahontas. C'est un peu dommage, les images sont magnifiques, mais il y a très très peu d'émotions qui transparaissent. Film, on va dire, trop contemplatif, un peu léger au niveau du récit. Il est introduit par la voix off de Pocahontas qui parle dès le début en anglais, alors qu'elle n'a jamais vu un occidental. Il y a quelques petites entorses comme ça qui sont un peu gênantes. Il y a un acteur qui est lui aussi, mais vraiment très mauvais. Alors là, le capitaine, alors c'est Colin Farrell, alors, mais il est totalement insipide, il est transparent. Autant la jolie Pocahontas, elle est charmante, elle est là, elle a une présence. C'est pas fantastique, mais elle est là. Et ce qui gêne peut-être le plus, c'est cette sorte de représentation un peu plate du mythe du bon sauvage avec les forêts, les rivières de Virginie en fond, tout ça, c'est magnifique. Le retour en Angleterre de la princesse indienne Pocahontas, c'est vraiment décevant. Le film s'embourbe. C'est vraiment dommage qu'on reconnaît pas Terrence Malick, même si on reconnaît chez lui la présence d'une obsession qui était déjà présente dans ses autres films, le côté un peu Robinson Crusoe, le retour à la nature qu'on retrouvait notamment dans un très joli passage de Badlands.
Ouais, alors Badlands, effectivement, les variétés nous font ce plaisir quoi, de ressortir le premier film de Terrence Malick de 1974. Et Badlands, bon, mais là, c'est un film très singulier, quoi, très très beau, avec Martin Sheen qui est physiquement et dans son comportement rappelle étrangement à tout le monde un certain James Dean. Et c'est un film hippie sans les fleurs et les cheveux longs. Quoi. C'est un film qui va envoyer en fumée le poids du père dans une famille, le poids de la représentation sociale sur les relations de couple et sur l'âge que devraient avoir des amants, un âge proche et non pas 10 ans d'écart, et ci et ça, et les modes de comportement et le rapport au travail. Badlands passe un bon coup de pétard à 9 balles là-dessus, parce qu'on a donc Martin Sheen qui trimballe une espèce de nonchalance. C'est pas tant des choix que le fait de vouloir juste s'écouter et avec la même avec cette nonchalance, il va se mettre à flinguer tout ce qui s'oppose à son parcours. Et mais un petit peu de la même façon, les victimes sont jamais totalement coupables, mais sont jamais totalement innocentes non plus. Il y a le doute autour de ça, et ça rappelle un petit peu la façon dont la société juge les êtres et notamment les marginaux. Et donc, Martin Sheen dégaine et flingue le père et brûle la maison. Et il y a un plan dans il fout le feu à la baraque familiale de la demoiselle qui va emmener et son amoureuse donc, et on a un plan qui rappelle Zabriskie Point, parce qu'on a donc un plan de pyrotechnie avec les poulets rôtis qui étaient prêts dans la cuisine et qui rebrûlent et le frigo qui fond et voilà, on est reparti dans cette même ambiance. C'est 4 ans après Zabriskie Point, mais je pense que voilà, Terrence Malick avait vu le film d'Antonioni et
Il avait dû voir aussi les films de Nicolas Ray, notamment They Live By Night, Les Amants de la Nuit, où là aussi il s'agissait d'une sorte d'histoire d'amour road movie, où on fuyait la société en prenant les marges de la loi. C'est absolument fabuleux. Et dans Badlands, vraiment, ce qui est très fort, c'est Martin Sheen et Sissy Spacek, qui sont d'un naturel déroutant. On a l'impression d'être avec eux. On a l'impression qu'ils ne jouent pas. On vit le film de l'intérieur. C'est terrible. Les images sont magnifiques. Le montage est rythmé. Mais les acteurs, vraiment, je trouve, portent le film. Et la voix off de Sissy Spacek, qui se confie quelque part au spectateur, pardon. C'est vraiment très, très bien fait. Elle laisse Martin Sheen encore plus isolé, encore plus seul dans son monde du un peu seul contre tous. C'est vraiment très, très beau. Si vous n'avez pas vu Badlands, foncez.
Quelques mots d'une autre teneur à propos de Un couple parfait, le film de Souwa. Il ne faut pas se fier aux commentaires de Ventilo qui dit si vous faites une blague à vos amis, conseillère, ce film.
Je ne sais pas qui c'est qui a écrit
ça. C'est tout à fait injuste, quoi, parce que le film de Souwa est certes. Aride peut-être en termes de plan, parce que c'est filmé en plan séquence, les plans durent minimum 30 secondes, voire une minute, et ça se dilate. On est sur les décombres, sur les décombres fumantes d'un couple qui se sépare, et Souwa donne du texte à ses acteurs, mais pas beaucoup d'indications. Et il y a donc une appropriation, on rentre dans cet espace clos du couple qui se déchire, avec les projections de désir des uns, avec les jeux hystériques des autres, et c'est filmé avec un classicisme, une rigueur qui est foudroyante, avec le cadre est posé et on n'en bougera pas et on laisse vivre les silences. Enfin, moi, c'est un film qui me fait du bien parce qu'on n'est pas dans cette espèce de cinéma qui veut faire croire à des choses, qui joue du montage et qui raconte des histoires. Il n'y a pas d'histoire. Cette histoire-là, elle s'est passée depuis la nuit des temps. Ça s'est passé 100 000 fois et chacun la revit, parce que bon, ces histoires de rupture, là, tout le monde y passe un peu. Et donc, ce couple parfait, nous entraîne, voilà, dans cet espace-temps et le dilate pour nous. Jusqu'à Souwa frappe de noir l'image, interrompt la séquence une seconde, deux secondes dans le noir, et raccorde sur le même plan et ne fait pas d'effet, quoi. On rentre dedans, on s'enferme et on va accompagner, on va laisser partir le train à la fin avec eux, enfin à la fin, non pas tout à fait à la fin, mais on va être contemporain, quoi, de ce déchirement. Moi, je conseille à tout le monde. C'est peut-être un film à aller voir en solitaire, par contre, pas convier les amis et pas croire passer une soirée délirante et follement comique. Mais Souwa, c'est un film, enfin, Un couple parfait, c'est un film important et rare et beau.
Donc, je vais profiter aussi de ne pas être d'accord pour une fois avec Jean-Marc pour vous dire que j'ai été extrêmement déçu. Un couple parfait, pour moi, c'est un cadre qui est posé, un plan composé, pas forcément toujours avec réussite, et des acteurs qui me paraissaient être livrés à eux-mêmes. J'avais l'impression qu'ils étaient totalement libre, mais quelque part un tout petit peu
comme on est dans la vie, quoi,
un tout petit peu perdu. Pour revenir à la composition du plan, c'est vrai que au départ j'ai pas trouvé ça beau, j'ai pas trouvé ça prenant, je suis resté étranger, et pourtant, ouais, comme tu dis, des ruptures on a tous vécu, mais je conçois que c'est un film intelligent et un film ambitieux, mais pour moi, le film n'est pas réussi. Voilà.
Pour peut-être donner de briques de référence pour que les gens se disent, tiens, c'est dans ce territoire-là ou dans cette galaxie-là. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup fait penser au film de Garel, à Sauvage Innocence, au dernier film de Garel, pas les films sous acide des années 70, mais les choses plus récentes. Nantes, ou même Les Hautes Solitudes aussi. Les Hautes Solitudes où on était enfermé dans une chambre avec Jane Seberg pendant une heure de silence et juste quelques notes de piano qui venaient donner une tonalité au sentiment. Bon, voilà, je me suis cru dans un film de Garrel. Le premier plan aussi, qui est très très beau, c'est tourné en DV, hein, donc égonflé en 35.
Ça, je suis d'accord, le premier plan est vraiment très réussi.
Magnifique, un travelling, on est à l'extérieur d'un taxi, on file et on est dans les reflets. Et ça, c'est un plan qui rappelle Éloge de l'amour de Godard. Enfin, c'est très très proche. Bon, voilà, c'est Suwa, c'est du cinéma japonais, mais qui est... qui je trouve est dans les références pour des cinéphiles ou des, disons, des amateurs français, quelque chose où on retrouve, on a des repères, on n'est pas paumé.
On se rappelle encore, on se dit tous ces mots qu'on a voulu croire bon de n'oublier plus tôt. On évoque ces moments que l'on trouve si beaux. On aime à y penser le soir comme un écho. C'est la valse des gens, c'est la valse du temps, c'est la valse des gens qui s'aiment pour un temps. On sourit à revoir ces instants ordinaires où le désir de toi évanouissait hier. On se croyait si fort et ça nous rendait fiers de s'éloigner des autres, de se donner un air. C'est la valse des gens, c'est la valse du temps, c'est la valse des gens qui s'aiment pour un temps. Il y a toujours en toi ce que j'aimais déjà, cet air un peu perdu que tu n'assumais pas, ces fous rires retenus que j'entendais tout bas, ce je ne sais quoi de grâce à chacun de tes pas. Je ne sais plus trop quoi dire, toi tu souris un peu. Je vois les soirs de pluie là au fond de tes yeux. On s'aimait à s'imaginer là tous les deux, à se tenir la main et à devenir vieux. C'est la valse des gens, c'est la valse du temps, c'est la valse des gens. Levé sans moi, tu ne t'es pas retourné. Assis dans ce café, j'ai cru bon d'espérer. Alors au fond de moi, c'est sûr, j'ai ma pensée que sur ton doux visage, une larme coulait. C'est la valse des gens, c'est la valse du temps, c'est la valse des gens qui s'aiment pour un temps. C'est la valse des gens, c'est la valse du temps, c'est la valse des gens qui s'aiment pour un temps.
Temps d'images, c'est l'actualité du cinéma et de ses activistes, c'est aussi quelques respirations musicales, on vient d'écouter. La valse des gens, extrait du dernier album de Joseph d'Anvers. Très très joli album sorti chez Atmosphérique.
Merci Nassim. On est toujours en compagnie de Sabine Futorti qui dirige l'Institut de l'Image, qui fait environ une quinzaine d'années d'existence. Mais toi, ça fait 2 ans que tu as pris les commandes du lieu.
Oui, ça fait 2 ans que je suis là. Ouais.
Et alors, avant d'évoquer peut-être la programmation à venir, et notamment un hommage à Cézanne, dans le cadre de Cézanne 2006, la fête de Cézanne à Aix, incontournable, peut-être je voulais revenir avec toi sur les... Ce qui a marqué en termes de rétrospective un peu ton arrivée, les partis pris de programmation.
Moi, je me suis située complètement dans la continuité, hein, mais j'ai eu la chance de pouvoir montrer, par exemple, une rétrospective Fellini extraordinaire. Donc ça, c'était un grand bonheur. Et puis, on a organisé une rétrospective dédiée à Kitano, un hommage à Almodovar, aussi un hommage à Robert De Niro. à Cronenberg plus récemment. L'année dernière, on a montré des films de Tarkovsky, d'Alain René. On a fait une programmation autour du flamenco, formidable. Un week-end consacré au féminisme. Et puis, donc, on l'a dit à Mosguitaï au début de l'année, on avait montré l'intégrale de Bord également. Voilà, quelques noms de programmation pour donner peut-être l'envie aux gens qui ne connaîtraient pas encore l'Institut de l'Image de savoir que là, on y trouve des grands films.
Des maîtres.
La programmation de l'Institut de l'Image, est-ce que c'est quelque chose qui est toujours en lien avec ce qui se fait à la Cinémathèque de Paris ou est-ce que vous avez une certaine autonomie?
Non, on a une complète autonomie de nos choix. On est partenaire et souvent on va se nourrir à la Cinémathèque pour trouver les copies puisqu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de films qui ne sont plus en distribution. Des films qui appartiennent à notre imaginaire collectif et on ne les trouve plus. Alors la Cinémathèque est quand même encore un temple qui conserve certaines copies, pas toutes, hein, donc nous on a la chance d'avoir ce partenariat qui nous permet d'aller y trouver des copies.
Alors en cette année 2006, Cézanne va être consacrée par la ville d'Aix et la région, la communauté du Pays d'Aix. Alors l'Institut de l'Image.
Alors l'Institut de l'Image a eu envie de participer à l'hommage au centenaire de sa mort, d'une manière un petit peu singulière peut-être, en partant de l'idée que on n'a pas voulu faire une sempiternelle programmation autour des liens entre peinture et cinéma, ça a déjà été fait, c'est très intéressant, mais on s'est dit qu'on avait plutôt envie de l'aborder sous un angle différent, qui était de l'expérience artistique et de ce que Cézanne a représenté dans le domaine de la peinture, qui est peut-être un peu le fondateur de la peinture moderne et qui a donné lieu après à l'émergence de plein de nouveaux courants. Il a créé un nouvel outil, il a utilisé un nouvel outil, la palette, les petits tubes de peinture. Ça lui a permis d'aller à la recherche, au-devant du motif, de se déplacer, de sortir de son atelier. Et je pense que l'histoire du cinéma, elle est un petit peu jalonnée de ces expériences-là depuis le début. Et donc, on a demandé à quelqu'un qui s'appelle Patrick Lebout, qui est un essayiste, qui a fondé une revue qui s'appelle L'Image Le Monde, en Belgique, et qui anime beaucoup de séminaires dans pas mal de lieux en France, de diriger en fait une réflexion autour du geste cinématographique comme expérience artistique. Et donc, pour ça, nous avons invité le couple mythique Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, qui ont réalisé un magnifique film sur Cézanne, qui s'appelle Cézanne, avec les textes de dialogue de Cézanne avec Joémine Gasquet, dit par Daniel Huillet. Et donc, ils vont faire l'ouverture de toute une série de rencontres. Ils resteront. Donc, cette programmation, elle va s'étaler du 15 au 26 mars. Et le 17 mars, Jean-Marie Straub et Daniel Huillet seront présents. Et le samedi également, avec Moïse et Aaron et une visite au Louvre. Et puis le dimanche, une réflexion donc animée par Patrick Lebout, en présence de Philippe Lafosse, qui est un grand spécialiste des Straub. C'est pour ça que je le cite, il sera présent hein, d'ailleurs. Donc le dimanche, en fait, on va montrer Jaguar de Rouch, qui est quand même... Un film important dans cette expérience artistique, dans le geste hein, sur lequel on va réfléchir ensemble. Et puis les films du groupe Medvedkin, dont on a pas mal parlé dernièrement puisqu'ils ressortent en DVD. Donc on va en montrer deux en présence d'un ouvrier qui a participé à cette expérience et donc qui viendra témoigner de ce que la caméra a représenté pour eux à cette époque. C'est un partenariat avec les Instants Vidéo aussi, dirigé par Marc Mercier. Marc Mercier sera là pour nous montrer des films de Gianni Totti, un grand, grand monsieur dans le monde de la vidéo. Et puis un petit hommage à Peck qui vient de mourir. Et donc on remontrera un film sur lui. Également présent Jean-Louis Comolli, qui viendra montrer en avant-première son dernier film, La Dernière Utopie. Sur l'utopie télévisuelle de Rossellini. Vous voyez qu'on reste dans un domaine et on cite tous les grands maîtres. Et puis également un rendez-vous important, les tout premiers films des frères Dardenne, La Promesse, et puis un film un peu inédit, Lorsque le bateau de Léon M. descendit la Meuse, donc des frères Dardenne également. Voilà, partenariat également avec l'École d'art d'Aix-en-Provence, par le biais de François Logeau, qui participera à une table ronde avec Marc Mercier sur le geste artistique. Et puis bon, beaucoup d'autres films de Cazavette, de Kiarostami, de Renoir, qui nous ont semblé être les grands noms de ces gens qui ont marqué l'histoire du cinéma par leur liberté et par leur regard singulier. Bon, je pense que tous les cinéastes ont un regard singulier, hein, mais oui, disons qu'il y en a plus que d'autres.
des expériences plus poussées. J'avais envie d'évoquer, bon, puisque cette semaine sort à Aix et non pas encore à Marseille, le dernier film de Alexander Sokourov, le génialissime réalisateur russe. Est-ce que il aurait pas
Il aurait pu, ouais, c'est vrai, non, que
le droit de citer dans ce...
Il aurait pu, oui, tout à fait. Je pense que l'Arche russe aurait pu tout à fait faire partie de cette programmation. Bon, c'est, à chaque fois, ce sont des choix, hein, qui ont des valeurs de choix, donc subjectifs. Il y a un film aussi dont je voudrais parler, c'est Le Songe de la Lumière de Victor Hérissé, qui est un petit bijou, qui filme un peintre, là, cette fois-ci. Donc, on a voulu quand même garder un petit peu des liens avec la peinture, en montrant à la fois Le Songe de la Lumière et puis le Edouard Munch de Peter Watkins, qui est déjà sorti, mais qu'on remontre. Voilà, donc beaucoup de soirées, beaucoup de rencontres, beaucoup de débats avec des films un petit peu rares.
Dans cette histoire du cinéma où les grands noms sont cités, est-ce qu'il y a quelques auteurs qui ne sont pas, on va dire, accessibles pour une rétrospective? Est-ce que tu te retrouves confronté à quelques obstacles? Je ne sais pas, absence de copie, absence d'autorisation. De choses que tu aimerais, d'auteurs que tu aimerais vraiment montrer.
Ah, mais ça, c'est sans arrêt qu'on est confronté à ce problème-là. Hein. C'est-à-dire que, bon, on revient à Antonioni. Là, moi, je suis assez fière parce que Zabriskie Point, on a réussi à avoir la copie à Cinecittà, mais grâce à des relations, enfin, pour pouvoir sortir. C'est sans arrêt qu'en fait, on a des difficultés pour trouver les copies. Donc, c'est notre travail. C'est notre travail et ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y en a beaucoup qui ne sont plus en distribution, je l'ai déjà dit. Donc, il faut trouver auprès des cinémathèques. Il y a des distributeurs qui changent. Le blocage, c'est souvent l'argent aussi. Hein, parce que parfois, on trouve les copies, mais à des prix qui sont complètement rédhibitoires. Donc ça, c'est vraiment le gros de notre travail, de se débrouiller pour dénicher ces films et les montrer.
Ça va briller en mars et ça se prolonge jusqu'en avril également, cette programmation.
Non, Cézanne, c'est quoi?
C'est mi-mars, fin mars. Hein.
Ouais, c'est du 15 au 26 mars. Voilà.
Bon, juste avant de vous annoncer également les programmations à venir au Miroir, au Polygone Étoilé, entre autres, on va marquer une dernière pause avec un extrait de Saudade do Futuro.
Partiu chorando, quem ficou também chorou. A candeira e o cruzeiro matando a fome cruel, manda caro mata a sede. Agora de mal pra te mata, isso quer dizer sertão.
vale morta de mata, isso quer dizer sertão.
On était sur un foro extrait du film Saudade do Futuro avec les repentistas, les paysans du Nord-Est qui revendiquent à travers ces morceaux, disons, leur droit d'existence et qui revendiquent une existence sociale. Le cinéma brésilien ne jouit pas, comme certains autres, quoi, d'une réputation, très imposante, importante. Et je crois que l'Institut de l'Image a aussi
pris par rapport à ça. Tout à fait, oui. On essaye, au-delà de rendre hommage aux grands auteurs, de mettre en valeur des cultures cinématographiques qui n'ont pas beaucoup de place, encore une fois, dans les circuits habituels. Et donc, nous, on avait fait une rétrospective de cinéma brésilien qui était assez intéressante. Et puis, bon, on a montré du cinéma arménien, du cinéma kurde, du cinéma corse aussi. Enfin, sans tomber dans un communautarisme, hein, moi, que je refuse complètement. Mais c'est quand même l'idée de mettre en valeur des cinémas qui sont quand même le relais de culture vraiment importante. Voilà.
Donc, on pourrait parler de cinéma du monde comme il y a des musiques du monde,
oui,
c'est ça?
Oui.
On va éviter.
Voilà.
Nassim, avant qu'on annonce,
juste avant l'annonce de
choses brûlantes à venir,
voilà, une dernière chronique. Il s'agit de l'ivresse du pouvoir de Chabrol, Isabelle Huppert, Robin Renucci, Patrick Bruel, voilà, plein de beau monde. Chabrol, on le sait depuis la cérémonie, a abandonné toute idée d'ambition au cinéma. Quelque part, il s'est relégué tout seul en division 2. Il fait des films comme un bon artisan, c'est bien, c'est plaisant, mais ça va jamais très très loin. Là, il décide de faire un film en prenant pour sujet l'affaire Elf. Le premier plan du film nous le dit, toute ressemblance avec des personnages connus serait, comme on dit, fortuite. Le « comme on dit », c'est dans ce « comme on dit » qu'il faut entendre le film. Il ne fait pas un film enquête qui aurait pu se révéler vraiment lassant. Il fait un film-jeu qui laisse la part belle vraiment aux acteurs et aux actrices. Les gens qu'il dénonce sont vraiment très très drôles. Ils apparaissent vraiment avec un naturel surprenant, pas du tout vicieux ou calculateur. Ceux qui abusent deviennent ceux qui amusent. C'est vraiment rigolo, de très beaux numéros d'acteurs. On passe un très agréable moment, même si ce n'est pas du très grand cinéma.
Alors à venir pour conclure ce temps d'image de mars sur Radio Grenouille, je vais annoncer juste les bribes de sélection qui m'ont attiré l'œil et l'esprit pour ce mois à venir, notamment au Polygone Étoilé, où en partenariat avec Extérieur Nuit, il va y avoir une sélection Fassbinder, avec notamment Je veux seulement qu'on m'aime, le 9 mars à 20h, et puis le film Fleuve projeté deux fois, Berlin Alexanderplatz, donc les 11 mars et 12 mars, le 11 c'est à 13h et le 12 également d'ailleurs. C'est un film qu'il faut respirer un bon coup avant, ça dure 9 heures. Hein, donc si vous voulez vivre cette expérience, rendez-vous au Polygone Étoilé les 11 et 12 mars. Pour Fassbinder, si vous loupez le coche, il y aura, organisé par Philippe Bérard du Miroir à la Vieille Charité, également une rétro Fassbinder en mars, et qui fera suite, je crois, à une intégrale de bord. Donc ça va briller au miroir, ça va briller au polygone, et sans quoi
conseille.
Oui, non. Voilà le mot. également, donc je crois qu'il y a quand même des petites choses à voir dans les sorties de salle. Il y a Grizzlyman, quand même. Et puis bien sûr, j'en parlais tout à l'heure, Le Soleil, le dernier film de Alexandre Sokourov.
Et pour rire aussi, Enfermé dehors de Dupontel, parce que des fois aussi, il faut privilégier la légèreté.
Ok, et puis en dernier lieu, la 7e quinzaine du cinéma hispanique, hein, également, qui se passe au Mazarin, du 1er au 14 mars. Tant d'images, c'est fini pour aujourd'hui. Sabine Putorti de l'Institut de l'Image, on te remercie chaleureusement.
C'est vraiment moi qui vous remercie. Hein. C'est bien d'avoir l'occasion comme ça de pouvoir parler de son travail.
Et puis au plaisir, hein, tu es bienvenue.
Merci.
Et les auditeurs sont bienvenus aussi à l'Institut de l'Image qui se situe à la
Cité du Livre. Bibliothèque Méjeanne, c'est 8-10 rue des Allumettes à Aix.
C'est à l'entrée d'Aix-en-Provence.
Voilà, par la gare routière, tout ça. On a un numéro de téléphone, on peut le donner.
Oui.
04 date 42-26, 81-82.
Temps d'image, c'est fini. Bonne projection.
À bientôt.